Allez, on va accueillir comme il se doit notre invité du jour, Michel. Michel, bonjour. Michel Favret.
Bonjour Joël.
Voilà, je vous présente comme invité, mais vous faites partie de la grande famille.
Hein. Un peu, oui.
Voilà, alors vous allez présenter la chronique Astro numéro 13. Juste peut-être avant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis c'est vrai que ces derniers temps, entre Mars, la Lune, tout le monde sur Facebook, ça s'est agité. Mais peut-être revenir, juste dire deux mots sur le pic du midi cet été. Donc il y a eu des directs.
Oui.
Alors, vous allez me dire, c'est loin déjà derrière vous, mais bon.
Oui, ben c'est enfin si les auditeurs ont entendu les chroniques, ils ont pu
apprendre
un petit peu ce qu'on faisait là-haut, qu'on a eu du beau temps, enfin pas toutes les nuits, mais quand même plusieurs nuits dans la semaine, donc on a pu observer. Bon, c'est un peu un rituel hein, dans notre club d'astronomie, là près de Périgueux, Astroflep. On fait une mission au pic tous les ans. En principe, c'est toujours à peu près comme ça, vers fin juillet ou début août, et en fonction de la lune, hein, on essaie d'avoir des nuits bien noires. Et bon, bah, c'est toujours un plaisir d'être là-haut. Il y a à la fois l'ambiance de la montagne, l'astronomie, puis on est un peu comme des vrais astronomes, quoi. Pendant une semaine, on fait le même boulot que les astronomes professionnels, pratiquement.
Bien, ça c'est plus que la passion. Hein.
Voilà.
Voilà, mais on va pas revenir, sinon on en aurait pour des heures. Mais il a fallu s'adapter, y compris sur pour le sommeil, les nuits, tout ça, pour être présent sur Eldo Radio. Donc vraiment merci. Et là, c'est vrai que quand on discutait un petit peu avant l'émission, l'astronomie, on n'en parle pas partout, mais là, avec cette éclipse lunaire de lundi, ça a été largement commenté. Alors, il peut se dire tout et n'importe quoi. Ça, c'est à un moment donné, il y a les médias, l'opinion publique. Voilà. Alors, vous allez nous en parler, bien sûr, pour ouvrir votre chronique astro de ce beau spectacle. Hein.
Voilà, c'était un beau spectacle, effectivement, hein, parce que pendant une éclipse de lune, si les auditeurs ne sont pas levés assez tôt pour la voir, hein, ce qui est dommage, parce qu'il faisait beau en Aquitaine, en tout cas en Dordogne, où j'étais, moi. On a une lune qui est un disque blanc très éblouissant, hein, c'est la pleine lune, et petit à petit, elle va disparaître et devenir complètement rouge, du fait de la réfraction de la lumière du soleil par l'atmosphère terrestre. Et elle est rouge, mais en même temps, elle est très pâle. Donc, on revoit tout le ciel autour, hein, les étoiles. Quand il y a des planètes, ça peut être les planètes aussi. Presque comme si la Lune n'était pas dans le ciel. Donc, il y a vraiment un changement d'ambiance qui est complet. Alors, par contre, il fallait se lever tôt, hein, comme je disais, parce que ça se passait entre 3h du matin et 6h30. Tout le monde n'a peut-être pas eu le courage. Alors je voulais revenir effectivement sur ce qu'on a pu entendre dans les médias, et en particulier sur le fait qu'on a souvent répété que cet événement ne se reproduira pas avant 2033, et ça c'est faux. En fait, la prochaine éclipse de lune visible en France, un éclipse totale de lune, se déroulera le 27 juillet 2018, donc dans un peu moins de 3 ans. Alors celle-là on la verra pas très bien, parce qu'en tout début de nuit on verra la lune se lever déjà éclipsée. On ne verra que la fin du phénomène, c'est-à-dire la sortie de la Lune de l'ombre de la Terre. Et en plus, elle sera assez basse sur l'horizon, donc pas des conditions bien bonnes pour l'observer. Pour en avoir une un peu comme celle de lundi, qu'on verra de bout en bout dans des conditions meilleures, il faudra attendre 6 mois de plus, le 21 janvier 2019. Alors la date de 2033, hein, pour être précis, c'est le 8 octobre 2033, elle vient en fait d'annonces un peu sensationnelles faites par les Américains et notamment la NASA, qui sont toujours un peu avides de superlatifs, hein, ils montent toujours un peu la sauce, et ils ont parlé d'une éclipse de superlune. Alors, si on veut être précis, effectivement, lundi, la Lune était très grosse, car l'éclipse s'est produite à un moment où la Lune était au plus près de la Terre, donc un petit peu plus grande dans le ciel. Et ça, c'est plus rare, parce que ça s'est produit 5 fois, par exemple, au XXe siècle. Mais en réalité, pour les observateurs, ça change pratiquement rien, parce que la différence de taille, elle est minime, hein, de l'ordre de 14%, et franchement, à l'œil, c'est complètement invisible dans le ciel. À la limite, dans un télescope, on peut se rendre compte que la Lune est peut-être un petit peu plus grande que d'habitude, mais c'est vraiment limite, hein. Donc il n'y a pas un phénomène aussi exceptionnel que ça.
Ça c'est pour l'actu. Alors de l'eau sur Mars, là également, ça fait la une des médias. Et là, Michel, vous avez également des points à repréciser.
Hein. Voilà. Oui. Alors lundi, c'est une grande journée d'astronomie parce qu'on avait l'éclipse et après on avait la grande annonce de la NASA sur
largement commentée via les médias
sur l'eau découverte sur Mars. Alors comme je le disais à propos de la superlune, hein, les Américains ils sont assez forts comme ça pour faire beaucoup de tapage autour de sujets qu'ils ne méritent pas forcément, hein, en particulier la NASA. Et avant la conférence de presse, ils avaient annoncé une communication majeure à partir de Mars, donc on s'attendait à des choses fantastiques. Et en réalité, la découverte, cette fameuse découverte d'eau sur Mars, si j'osais, je dirais qu'elle a fait un peu pchit, hein, comme disait un ancien président de la République. En fait, l'histoire de l'eau sur Mars ne date pas d'hier. À la fin du 19e siècle, des astronomes, et surtout l'Italien Giovanni Schiaparelli, avaient cru observer des canaux à la surface de Mars. Et comme on connaissait l'existence de calottes polaires et de saisons sur cette planète, un peu comme sur la Terre, avec des changements de couleur même dans certaines zones, on a commencé à échafauder des théories sur l'existence de civilisations martiennes qui auraient construit des canaux pour amener l'eau de fonte des pôles vers des zones plus tempérées pour alimenter leur agriculture. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de ces martiens, petits hommes verts ou gris, qui sont devenus très populaires, en particulier dans la littérature de science-fiction qui commençait au début du XXe siècle, et surtout La guerre des mondes de H.G. Wells qui a été publié en 1898. Mais en réalité, tout ça, c'était qu'une erreur d'observation, parce qu'avec les télescopes pas assez précis de l'époque, on a cru voir des canaux, mais c'était une simple illusion. Il n'y a pas de canaux sur Mars, et on s'en est rendu compte dans les années 60, en particulier avec les premières sondes spatiales qui ont été envoyées vers la planète rouge. Mais la recherche d'eau, et donc de vie dans l'univers, reste une préoccupation de l'astronomie moderne. Et les seuls endroits où on puisse aller vérifier sur place avec nos sondes et nos robots restent le système solaire, car je l'ai déjà expliqué ici, je crois, nos technologies ne nous permettent pas d'aller jusqu'aux étoiles, hein, qui sont beaucoup trop lointaines pour nous. Donc on va surtout sur Mars, parce que finalement c'est là le plus facile pour y aller. On l'atteint en à peu près 6 mois quand elle est au plus près de la Terre, ce qui se produit tous les 2 ans. D'ailleurs ce sera le cas l'année prochaine, je crois, vers la fin du printemps ou le début de l'été. Donc c'est pour ça que Mars est la planète la plus visitée avec nos petites machines. À distance, on savait déjà qu'il y avait de l'eau sous forme de glace dans les calottes polaires, mais c'est avec les sondes et les robots donc que la recherche d'eau liquide sur Mars a pu progresser. Alors je profite que je parle de ça pour dire aux auditeurs hein, qui peuvent jusqu'à la fin de l'année aller voir l'exposition Odyssée qui est présentée à Cap Science et dans laquelle on a des maquettes à l'échelle 1 des principaux robots que nous avons envoyés à la surface de Mars. Et ça peut être assez intéressant de voir leur taille et un petit peu à quoi ils ressemblent. Alors si j'en reviens à ce qu'on a pu voir avec ces engins, on a vu que des formations géologiques comme le Grand Canyon, hein, qu'on appelle Valles Marineris sur Mars, hein, qui est bien plus grand que le Grand Canyon américain, n'ont pu être formées que par des grands écoulements de fleuves à la surface de Mars. Avec des robots, notamment le dernier Curiosity qu'on a envoyé sur Mars, on observe des formations rocheuses ou certains types de terrains sédimentaires qui n'ont pu être produits que parce qu'il y a eu de l'eau stagnante pendant de longues périodes sur Mars, donc des lacs ou des océans. Et aujourd'hui, on est persuadé que dans un lointain passé, peut-être plus de 3 milliards d'années, Mars pouvait ressembler beaucoup à la Terre, avec une atmosphère et une présence importante d'eau à sa surface. La question qui se pose aujourd'hui, c'est l'existence d'eau liquide sur Mars, encore aujourd'hui, soit à la surface, soit à faible profondeur dans son sous-sol. Et dans les années 2000, et surtout en 2011 avec des images fournies par MRO, hein, le Mars Reconnaissance Orbiter, un engin de la NASA, on a constaté la présence de coulées récentes qui apparaissent sur des photos prises à des intervalles de quelques mois sur des pentes abruptes hein, qu'on trouve dans certains cratères, par exemple, ou des canyons. Alors on les appelle des gullies, hein, ça veut simplement dire ravines en anglais, et on a remarqué qu'elles se manifestent en été, quand la température est la plus élevée. Alors on a pensé qu'il peut s'agir d'eau qui serait en sous-sol, piégée par exemple par un bouchon gelé hein, à la surface de la pente. Et quand le bouchon fond, parce qu'il y a un peu plus de soleil en été, l'eau va s'écouler, ça va faire un peu comme un torrent de boue qui va sécher très rapidement, parce que la faible pression atmosphérique provoque une très rapide évaporation de l'eau sur Mars. Alors la toute nouvelle annonce fracassante de la NASA, lundi, ne concerne que de nouvelles informations qu'on a à propos de ces gullies observées par MRO. Dans une étude publiée lundi, dont l'une des co-auteurs est une Française d'ailleurs, hein, Marion Massé de Nantes, des analyses plus précises et plus régulières montrent la présence de sels hydratés dans ces écoulements et ça prouve sans équivoque qu'il y a vraiment de l'eau liquide dans ce phénomène et pendant une durée plus longue que ce qu'on pensait auparavant. C'est tout ce qu'il y avait de nouveau annoncé. Alors c'est loin de résoudre entièrement le problème, comme l'annonce à tort la NASA, car on ne sait toujours pas exactement d'où vient cette eau. Hein, moi j'ai parlé d'une espèce d'écoulement de nappe phréatique souterraine, mais on peut penser qu'elle vient aussi de l'atmosphère martienne, où il y a un petit peu de vapeur d'eau, mais beaucoup moins que dans l'atmosphère de la Terre. Et cette vapeur d'eau pourrait être piégée par un phénomène un petit peu comme on a, les auditeurs connaissent sûrement ça, des petits sachets de déshumidificateurs dans les emballages d'appareils électroniques pour préserver de la condensation et qui absorbent la vapeur d'eau qui se trouve dans l'emballage. Donc on est loin d'avoir résolu complètement la question et il y a encore beaucoup de travail pour les futures missions martiennes.
Voilà, il fallait en parler, bien sûr. C'est l'actualité. On va relier, hein. J'en remets une petite couche sur Facebook. Allez, on va parler du sujet du mois et, la Lune, hein.
Voilà.
On reste ça... dans l'actu, hein, quelque part en même temps.
Voilà. Ça semblait assez naturel de parler de la Lune parce que, à ma grande surprise, hein, on attaque la deuxième saison des chroniques lunaires, astronomiques, là, puisqu'on a commencé en septembre l'année dernière. Et je me suis aperçu qu'on n'avait jamais parlé de la Lune. On a évoqué le Soleil en février parce qu'il y avait l'éclipse solaire de Mars, mais on n'a jamais vraiment parlé de la Lune. Alors, pour commencer, comme à chaque fois, je vais essayer de redéfinir les échelles. La Lune est beaucoup plus petite que la Terre, avec un diamètre qui est à peu près un quart de celui de la Terre, c'est-à-dire à peu près 3500 km, contre 12800 de diamètre de la Terre à l'équateur, hein, si j'arrondis à la centaine de kilomètres. Alors moi, j'aime bien donner, vous rappeler à nos auditeurs des images concrètes pour visualiser les choses. Si on représentait la Terre par un gros ballon de basket, hein, c'est-à-dire les plus gros, ceux qui sont utilisés pour les compétitions hommes, à la même échelle, la Lune pourrait être représentée par une boule de pétanque à côté. Alors pour revenir à l'éclipse lunaire, pour montrer que ça pouvait avoir un intérêt de l'observer, les Grecs avaient déjà remarqué, avec les éclipses lunaires, que l'ombre de la Terre était circulaire. Hein, donc on pensait que la Terre était peut-être une sphère à l'époque déjà. Et en 250 avant Jésus-Christ, donc il y a plus de 2000 ans, Aristarque, de Samos avait estimé que la Terre était environ 3 à 4 fois plus grande que la Lune, juste en estimant la taille de l'ombre de la Lune par rapport à la Terre. La Lune est le seul satellite naturel de la Terre, hein, c'est-à-dire qu'elle orbite autour de nous. La distance moyenne entre les deux astres est d'environ 380 000 km. À l'échelle, hein, si on reprend notre ballon de basket et notre boule de pétanque, ça représenterait dans les 750 mètres, c'est-à-dire 7 terrains de foot en longueur et demi. On peut prendre un exemple à Bordeaux, hein, je pense que les auditeurs connaissent bien Bordeaux et ses quais. Si on mettait le ballon de basket représentant la Terre à la fontaine de la place de la Bourse, la boule de pétanque pour représenter la Lune serait à mettre au bout du pont de pierre, rive droite, donc pas très loin de la statue du lion bleuté. Donc ça peut donner une distance, hein, qui est très grande à l'échelle de l'homme. D'ailleurs, dans les années 70, quand les Américains sont allés sur la Lune avec les missions Apollo, il leur fallait 3 jours avec leur vaisseau pour parcourir la distance de la Terre à la Lune, et pourtant le vaisseau allait très très vite, hein. C'est à peu près 7 fois la vitesse d'un avion de ligne moderne.
Et la Superlune, Michel?
Alors, la Superlune dont j'ai parlé tout à l'heure, à propos de l'éclipse, ou plutôt sur les Américains qui en ont parlé, ça vient d'un phénomène très simple. Depuis les lois de Kepler, et après Newton, hein, qui a théorisé la gravité, on sait que les orbites des planètes autour du Soleil ou des satellites autour des planètes sont des ellipses. Donc la distance entre la Terre et la Lune varie en fait entre 360 000 et 400 000 km. Hein. J'ai donné 380 000 tout à l'heure, c'est la moyenne entre les deux. Donc la Lune peut être légèrement plus petite ou plus grosse suivant qu'elle est plus près de nous, c'est-à-dire à ce qu'on appelle le périgée, ou plus loin, ce qu'on appelle l'apogée. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la différence est presque imperceptible à l'œil nu. À l'œil nu, c'est à peu près 14% de différence de taille en surface. Ce qui fait que sur les éclipses de Lune, ça a un effet qui est relativement insignifiant. Par contre, c'est bien plus important dans le cas des éclipses de Soleil, c'est-à-dire quand la Lune passe entre la Terre et le Soleil en masquant le Soleil. Car quand la Lune est plus éloignée de nous, donc plus petite, elle n'arrive pas à cacher complètement le Soleil. Et cela produit ce qu'on appelle une éclipse annulaire, c'est-à-dire qu'il reste un anneau de Soleil visible autour de la Lune. On sait aujourd'hui que la Lune effectue un tour complet autour de la Terre en un peu plus de 27 jours, hein, 27,3 si on veut être précis. C'est ce qu'on appelle la révolution sidérale, c'est-à-dire qu'on prend comme repère fixe les étoiles. Mais si on prend comme repère le Soleil, hein, dans ce cas-là on parle de révolution synodique, la durée est de 29 jours et demi, hein, ça vient la différence entre les deux du mouvement de la Terre autour du Soleil. C'est ce qui explique que les phases de la Lune, hein, le cycle des phases de la Lune qu'on appelle la lunaison, à cette durée de 29 jours et demi, car l'apparence de la Lune dans le ciel, hein, des fois elle nous apparaît comme un croissant, un quartier ou une pleine Lune, cette apparence dépend de la portion de Lune éclairée par le Soleil visible de la Terre, et donc de la position relative des trois astres, la Terre, la Lune et le Soleil. Ce cycle, on le retrouve facilement dans nos calendriers, hein, par exemple le calendrier des postes, avec un petit disque noir pour figurer la nouvelle Lune. Le premier quartier, c'est une demi-lune qui est bombée à droite, un disque clair pour figurer la pleine lune, et enfin le dernier quartier, donc une demi-lune, mais cette fois bombée à gauche. Alors les quartiers correspondent à la position où la ligne Terre-Lune fait un angle droit avec la ligne Lune-Soleil, et donc on voit exactement la moitié de la Lune éclairée. Alors on peut pas se tromper entre le premier et le dernier. Le premier quartier, on le voit toujours le soir et en début de nuit, et le dernier quartier, on le voit toujours le matin ou en fin de nuit. En français, c'est même encore plus simple. Si on imagine mettre un trait droit le long de la ligne droite du quartier, ça va former avec la Lune la lettre P comme premier quartier ou D comme dernier quartier. Donc c'est un système très très simple pour les reconnaître. La pleine Lune, elle, correspond à la position où le Soleil et la Lune sont opposés de part et d'autre de la Terre. Et du coup, on voit la Lune complètement éclairée de face, donc toute ronde. La nouvelle Lune, c'est la position inverse, avec la Lune et le Soleil qui sont du même côté de la Terre. Donc la partie de la Lune qui se trouve en face de nous n'est pas éclairée par le Soleil, et la Lune est complètement invisible dans le ciel, qu'elle traverse d'ailleurs en plein jour, hein, comme le Soleil.
Alors quand la Lune passe devant le Soleil, doit-il y avoir une éclipse ?
Alors on pourrait croire qu'à chaque nouvelle Lune, il y a une éclipse de Soleil, le Soleil masqué par la Lune, et à chaque Lune, une éclipse de Lune, hein, la Lune masquée par l'ombre de la Terre. Mais pour ça, il faut que les trois astres soient parfaitement alignés, et ça n'est pas le cas. Parce que l'orbite de la Lune est légèrement inclinée par rapport à l'orbite de la Terre, un angle d'à peu près 5 degrés. Donc en fait, si on prend l'exemple de la nouvelle Lune passe en fait soit légèrement plus haut que le Soleil dans le ciel, soit légèrement plus bas. Pour qu'elle passe pile en face, il faut que sur son orbite, elle traverse le plan dans lequel se trouve l'orbite de la Terre, qu'on appelle l'écliptique à cause des éclipses. Et ça, elle le fait deux fois par orbite, donc à peu près deux fois par mois. Mais il faut en plus que ce soit la pleine Lune, soit la nouvelle Lune pour qu'il y ait une éclipse. Donc en réalité, les conditions sont réunies à peu près deux fois par an. Donc on a généralement deux éclipses de Soleil par an et qui sont suivies ou précédées à 15 jours d'intervalle d'une éclipse de Lune. Mais elles ne sont pas forcément totales, hein. Parfois ce sont des éclipses partielles. Si je prends l'exemple de 2015, on se rappelle qu'on a eu l'éclipse de Soleil du 20 mars. Et elle a été suivie en fait le 4 avril par une éclipse totale de Lune. Mais on n'a pas pu la voir en France, elle était visible qu'en Asie et aux Amériques. Avant notre éclipse de lundi, là, du 28 septembre, il y a eu une éclipse partielle de Soleil, c'était le 13 septembre, mais là encore, elle était visible uniquement dans le sud de l'Afrique et en Antarctique, donc on n'a pas pu la voir en France. L'avantage d'une éclipse lunaire totale, hein, comme lundi, c'est qu'elle est visible de la moitié de la Terre, partout où on voit la Lune dans le ciel. Alors que pour une éclipse totale de Soleil, on ne peut la voir parfaitement que si on est sur Terre, à l'endroit où va passer l'ombre de la Lune, projetée sur la Terre, qui est une toute petite bande d'environ 200 km de large. Donc on la voit d'une toute petite partie de la surface de la Terre. Alors, je vous dis deux éclipses de Soleil et de Lune par an. C'est une moyenne. En réalité, le cycle est un peu plus complexe que ça. On appelle ça le Saros. Il est compliqué, mais on l'a découvert il y a assez longtemps. On a des traces écrites chez les Babyloniens il y a à peu près 2500 ans, hein, à peu près en 600 avant Jésus-Christ. Donc c'est un phénomène, un cycle qui est connu depuis pas mal de temps. Alors le cycle des lunaisons de 29 jours et demi, hein, si nos auditeurs s'en rappellent, j'en avais parlé dans la chronique de décembre consacrée au lien entre l'astronomie et les calendriers. Parce qu'en fait, il a servi de base à pratiquement tous les calendriers. C'est de là que viennent nos mois de 30 jours et nos semaines de 7 jours, hein, qui correspondent à l'écart séparant les principales phases, la nouvelle lune, le premier quartier, etc. En effet, l'observation du changement d'apparence de la Lune dans le ciel est la façon la plus simple de constater le passage des jours et de les compter. Et on pense même que cette observation a commencé bien avant l'invention des calendriers, en Dordogne, d'où je viens là. Sur le site de l'abri Blanchard, on a trouvé un os gravé recto verso avec des figures géométriques étranges qui dateraient d'environ 32 000 ans. Et d'après des études qui ont été faites par un expert en 1964 pour la NASA, il représenterait l'observation des phases de la Lune sur une période d'environ 6 mois. Donc comme quoi, les hommes ont été fascinés par le ciel depuis bien longtemps. Et ça m'arrive de penser à cet ancêtre des astronomes qui a pris le temps, jour après jour, de tourner ses yeux vers la Lune et d'enregistrer ce qu'il voyait. C'est quand même assez étonnant, quoi.
Mais Michel, quand on regarde la Lune, on voit toujours la même face. Alors pourquoi ? Pourquoi une face visible et une cachée ?
Voilà, alors cet astronome de l'Antiquité, on va dire, même de la préhistoire, il voyait toujours la même face de la Lune, comme nous, puisqu'on a une face qu'on voit toujours la même, et l'autre face qui reste ce qu'on appelle la face cachée de la Lune, et qui n'est jamais visible pour nous. Alors certains croient à tort que ça s'explique par le fait que la Lune ne tourne pas sur elle-même, mais c'est faux. Alors pour le constater, c'est très simple, hein, les auditeurs peuvent essayer une petite expérience. Si on tourne autour d'un repère, hein, je propose par exemple de prendre un arbre ou un lampadaire, on tourne autour en le regardant en permanence, un peu comme la face de la Lune est en face de nous en permanence. Eh bien, on va s'apercevoir qu'on tourne sur nous-mêmes en même temps qu'on tourne autour de l'arbre ou du lampadaire. Et d'ailleurs, on fait exactement un tour sur nous-mêmes pendant qu'on fait un tour autour du repère. C'est ce que les astronomes appellent la rotation synchrone. Et ça nous paraissait assez bizarre, hein, une coïncidence bizarre concernant la Lune, jusqu'à ce qu'on découvre que d'autres satellites, de Jupiter ou de Saturne par exemple, étaient aussi en rotation synchrone, donc montraient toujours la même face à leur planète. Et maintenant, on a compris, l'explication est assez simple. La face qui est tournée vers nous est la plus lourde, hein, si je peux dire, je simplifie un petit peu pour les auditeurs. Et on peut le voir parce qu'il y a des grandes zones grises qu'on appelle des mers, qui sont les traces de chute de très gros astéroïdes. Alors que la face cachée, qu'on a vue en octobre 1959, quand une sonde russe Luna 3 a pris les premières photos, n'a pratiquement pas de mer. Et cette différence, si je peux dire, géologique, explique que le poids, hein, si je peux dire, n'est pas le même entre les deux faces. Donc il y a un certain balourd dans la rotation de la Lune, ça veut dire que l'axe de rotation de la Lune ne passe pas exactement par son centre de gravité. Et si on réfléchit à la façon dont la Terre attire vers elle ce balourd, on peut comprendre que ça peut soit accélérer, soit ralentir la rotation de la Lune pour conserver le centre de gravité toujours au plus près de la Terre. Et au fil de millions d'années, ça a produit le résultat qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la synchronisation parfaite entre la rotation de la Lune sur elle-même et sa révolution autour de la Terre, qui sont toutes les deux d'environ 27 jours, hein, 27,3 jours. En réalité, on peut voir un tout petit peu plus que la moitié de la surface de la Lune. Quand j'ai dit tout à l'heure que l'orbite de la Lune autour de la Terre était une éclipse, on sait qu'avec les lois de Kepler, la Lune avance un peu plus vite sur son orbite quand elle est près de la Terre, ce qu'on appelle le périgée, que lorsqu'elle en est loin, l'apogée. Alors que la rotation, elle se fait toujours à la même vitesse. Donc elle peut prendre un peu d'avance ou de retard sur la révolution, et ça nous permet de voir des petits morceaux de la surface supplémentaire sur les côtés, hein, si j'ose dire, c'est-à-dire à l'est et à l'ouest de la Lune. On appelle ce phénomène la libration. Hein, la Lune semble osciller de droite à gauche au fur et à mesure qu'elle se déplace, et ça nous permet de voir en fait à peu près 60% de la surface lunaire, et pas juste 50%.
Et les marées ?
Voilà, alors j'ai parlé de l'attraction de la Terre sur la Lune, mais bien sûr, ça marche aussi dans l'autre sens. La Lune attire aussi la Terre. Alors la Terre, on sait qu'elle est formée d'une petite croûte solide sur une boule qui est relativement molle, hein, plus ou moins en fusion, et donc l'attraction de la Lune déforme la surface de la Terre. Au niveau des continents, ça se perçoit très très peu, hein, c'est imperceptible parce que je crois que le déplacement est de l'ordre de 10 cm, 10-20 cm. Mais sur la partie la plus molle de la Terre, c'est-à-dire les océans et les mers, la déformation est beaucoup plus importante, avec deux bosses, une qui est en face de la Lune, l'autre à l'opposé, qui provoquent les deux marées quotidiennes, et des marées qui peuvent atteindre plusieurs mètres, hein, de différence de niveau. Alors en raison du déplacement de la Lune autour de la Terre, les marées ne se succèdent pas exactement à 12 heures d'intervalle, mais à peu près à 12h25 d'intervalle. Et ça a été observé dès le 1er siècle avant Jésus-Christ par un astronome qui s'appelait Posidonios. Et la relation entre la Lune et les marées a été décrite précisément au 9e siècle par un astronome perse qui s'appelait Albumazar. Alors si je veux être complet sur cette histoire de marées, on sait aussi que le Soleil joue un rôle, hein, dans les marées, ce qui explique pourquoi elles sont plus fortes quand la Lune et le Soleil sont alignés, c'est-à-dire la pleine Lune ou la nouvelle Lune, et plus faibles quand les deux astres tirent dans des directions différentes, c'est-à-dire au premier et au dernier quartier.
Alors Michel, d'où vient la Lune ?
Alors pour finir, on peut parler un petit peu effectivement de l'histoire et de l'origine de la Lune. Et ça vient un peu des missions lunaires que j'ai évoquées tout à l'heure, Apollo, là, des Américains. Parce que quand les astronautes ont rapporté sur Terre des échantillons de roches lunaires, il y en a à peu près 300 kilos, et qu'on les a étudiés, on a été surpris par leur très grande ressemblance avec des roches terrestres dans leur composition. Hein, ça ressemblerait un peu à des basaltes, hein, des roches volcaniques. Et avec d'autres caractéristiques qu'on a étudiées, la température de formation, leur âge, etc., on en arrive à penser que la Terre et la Lune se sont formées ensemble à partir des mêmes éléments. Alors aujourd'hui, le scénario le plus plausible pour les scientifiques est celui d'un énorme impact d'une petite planète, on pense peut-être de la taille de Mars, hein, qui est plus petite que la Terre, contre la Terre qui était toute jeune et pas encore refroidie à l'époque en surface. On pense qu'il y a peut-être de l'ordre de 4 milliards d'années. Les deux planètes auraient fusionné, mais le choc très violent aurait aussi éjecté dans l'espace beaucoup de débris, tellement vite et loin de la Terre qu'ils n'ont pas pu retomber sur la Terre. Et ils ont fini par se regrouper pour former notre Lune. La Lune s'est progressivement refroidie. On pense qu'elle s'est un peu contractée, ce qui explique la présence de grandes fractures à sa surface, hein, qu'on peut voir dans des télescopes. Mais quand on l'observe, soit au télescope, soit même avec de simples jumelles, ce qui est le plus remarquable, hein, ce qui saute aux yeux, ce sont les nombreux cratères et les mers qui occupent toute la surface. Et ce sont les résultats de chocs avec des astéroïdes plus ou moins gros. Les plus petits ont créé des cratères d'impact et les plus gros ont tellement fracturé la surface en profondeur qu'il y a eu des remontées de magma qui, en se refroidissant, ont produit de grandes plaines grises qu'on appelle les mers. Ce mot est bizarre parce qu'il n'y a pas d'eau sur la Lune. On a appelé ça les mers tout simplement parce qu'à la surface de la Lune, ça paraît plus sombre. Et quand on regarde la surface de la Terre, les océans sont plus sombres que les continents. On dit mer, mais il n'y a pas d'eau sur la Lune. Donc on pourrait dire que la Lune témoigne du passé chaotique et violent du système solaire, hein. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, la Terre, qui est toute voisine de la Lune à l'échelle du système solaire, a été soumise exactement au même bombardement. Si on ne voit pas sur la Terre les traces de ces cratères, hein, par exemple, c'est simplement à cause de la tectonique des plaques, hein, le fait que les continents se déplacent sans arrêt, et ça renouvelle sans arrêt la surface en effaçant les traces des anciens impacts. Pour les plus récents, comme celui qui a fait disparaître les dinosaures il y a à peu près 65 millions d'années, c'est l'érosion hein, qui les dégrade progressivement. Et pour conclure, je vais quand même parler un tout petit peu de l'influence de la Lune sur la vie sur Terre, parce qu'on pense que l'existence de ce gros satellite autour de la Terre, qui a sans doute stabilisé les mouvements de la Terre, aurait joué un rôle majeur dans l'apparition de la vie sur Terre, parce qu'il a évité des variations trop violentes des climats. Et on pense aussi que l'influence sur la mer, avec les marées dont on vient de parler, a peut-être joué aussi un rôle dans l'évolution de la vie, qui est apparue d'abord dans les océans, parce qu'on pense qu'avec les zones côtières qui sont alternativement sèches et humides, ça a pu favoriser la sortie d'espèces amphibiennes pour conquérir ensuite les continents.
Allez, troisième partie de votre chronique, Michel, et le ciel du mois, et notamment dans un premier temps, voûte céleste et constellations.
Voilà, alors le ciel du mois, hein, à chaque saison, j'essaie de parler du ciel de la saison, donc on pourrait dire qu'on est en automne, mais en réalité, on vient tout juste de rentrer dans l'automne, hein, c'était le 23 septembre, avec l'équinoxe d'automne. Et comme le soleil se couche de plus en plus tôt, le soir, le ciel qu'on voit en ce moment en début de nuit n'est pas très différent de ce qu'on voyait fin août. Donc en fait, en ce moment, en début de nuit, c'est plutôt le ciel de l'été qu'on voit côté sud, avec le triangle de l'été, les constellations qui sont le long de la Voie lactée, le Cygne, l'Aigle, le Sagittaire. Et comme j'avais parlé de tout ça au mois de juillet, hein, avec le ciel de l'été, je pense que le plus simple, c'est que les auditeurs se reportent sur la chronique, et bien sûr aussi les cartes qui sont disponibles sur notre site. Hein, comme je le dis chaque mois, sur le site, il y a une rubrique astronomie avec le ciel du mois qui permet de voir les cartes, parce que les dessins à la radio, c'est pas très facile.
Voilà, mais via Facebook, on peut faire passer ouais. De l'info, et puis on rappellera le site. Allez, on continue sur cette dernière partie, et notamment autour des planètes.
Voilà, donc ce qu'on peut avoir de remarquable en ce moment sont les planètes. Alors, pendant tout le printemps, l'été, on a beaucoup parlé de Saturne, qu'on voyait en début de nuit, donc on le voit encore en début de nuit actuellement, mais il se couche tôt, hein, vers 22h, donc il apparaît au sud-ouest quand il commence à faire sombre, et il se couche assez vite, et il est très bas, donc on peut pas vraiment bien l'observer, surtout dans des télescopes. Et vers la fin du mois d'octobre, ce sera devenu impossible, parce qu'il se couchera dès que la nuit fait son apparition, vers 19h. Alors l'horaire peut paraître un peu bizarre, mais il faut se rappeler que le 25 octobre, on passe à l'heure d'hiver, hein, donc on a un changement d'heure. C'est plutôt le matin, et pour les leftos, que le spectacle des planètes est le plus intéressant, parce qu'on a en ce moment la brillante Vénus, hein, qui brille très très fort dans le ciel. Elle se lève vers 4h15 en ce moment, ce sera 3h30 fin octobre, hein, et je rappelle toujours en heure d'hiver. Et un peu plus bas, mais aussi bien lumineuse, on a Jupiter, qui se lève vers 5h30, donc une bonne heure après Vénus. À la fin du mois, ce sera l'inverse, elle se lève plutôt que Vénus vers 3h du matin. Et entre les deux, en ce moment, on peut repérer Mars, qui est reconnaissable à sa couleur orangée, mais qui est nettement moins lumineuse que les deux autres planètes, qui restent visibles tard dans les lueurs de l'aube, hein, quand il n'y a plus du tout d'étoiles dans le ciel, que le ciel est déjà bleuté, on voit encore Vénus et Jupiter. Donc pour voir les trois planètes avec Mars, il faut regarder quand le ciel est un peu plus sombre, plutôt avant 7h en ce moment, ou 6h30 fin octobre. À partir du 10 octobre, on aura en plus Mercure, qui apparaîtra dans le ciel le matin, mais plus basse, hein, donc plus tard.
Allez, on continue à coller à l'actualité. Alors, autour de ce ciel du mois et les éphémérides.
Voilà, alors ces planètes, hein, c'est les phénomènes, si on peut dire, astronomiques intéressants à observer ce mois-ci, sont liés à ces planètes, hein, donc on voit le matin, puisqu'elles vont se livrer à ce qu'on pourrait appeler un balai dans le ciel, hein, elles se déplacent les unes par rapport aux autres, et en plus, de temps en temps, on a un petit croissant de lune, hein, qui vient compléter le tableau. Alors voilà les dates qui seraient les plus remarquables en octobre, et c'est toujours le matin, hein, bien sûr. Donc le vendredi 9, on aura un croissant de lune qui viendra se positionner entre Vénus et Jupiter, et Mars qui sera pas très loin. Le lendemain, le samedi 10, le fin croissant de lune sera juste sous Jupiter. Le dimanche 11, elle sera encore un petit peu plus bas, hein, le croissant de lune est proche de Mercure, mais un croissant vraiment très très fin. Le dimanche 18, on aura un rapprochement entre Jupiter et Mars, qu'on pourra voir. Et le 26, ce sera un rapprochement de Jupiter et de Vénus. Et comme Mars n'est pas très loin, on aura vraiment les trois planètes très très proches les unes des autres. Et tout ce balai va se poursuivre début novembre, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler la prochaine fois, si je reviens fin octobre, comme d'habitude, et ça devrait être, je pense, le mercredi 28.
Voilà, ça sera la chronique numéro 14. Alors, juste avant de vous remercier, Michel, on va rappeler l'association que vous représentez, puis de manière succincte, mais c'est important de le rappeler chaque fois, vos principales missions au sein de cette association.
Voilà, alors Constellation et Galaxie, c'est une petite association qui est basée en Dordogne, hein, du côté de Mussidan. On est les seuls possesseurs d'un planétarium dans toute la région Nord-Aquitaine, et donc notre principale activité, ça consiste à se rendre beaucoup dans les écoles, on fait beaucoup de scolaires, mais il peut y avoir d'autres structures qui nous accueillent, des communes, des associations, pour parler du ciel, présenter le ciel avec ce planétarium itinérant. Et toutes ces informations, on les trouve sur notre site web, hein, www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org, dans lequel on a la partie planétarium, on a une partie exposition. Mais ça, ça concerne uniquement la Dordogne, où on fait circuler des expositions à thématiques scientifiques. Et on a la partie astronomie avec le ciel du mois et les cartes qui peuvent compléter un petit peu les descriptions que j'essaye de faire du ciel. Alors pour le planétarium, les rubriques expliquent la place qu'il faut pour l'installer, un peu comment ça se passe, quel est le contenu d'une séance, et puis les tarifs, bien sûr. Hein, tout ça n'est malheureusement pas gratuit. Les institutions régionales nous soutiennent pas suffisamment pour qu'on puisse proposer ces animations gratuitement.
Voilà, ça c'est dit, mais en même temps, voilà, il faut soutenir. Alors Michel, on se voit le mois prochain, et c'est vrai que j'insiste là-dessus, avec le Facebook, on relie bien sûr via votre site internet quelques infos, et on va rappeler à nos auditrices, auditeurs, s'il y a des questions qui interpellent, ne pas hésiter à nous les poser, et puis on vous les fera remonter.
Voilà, ça pourrait être intéressant peut-être une fois de faire une émission comme ça, où on répond aux questions que les auditeurs se posent sur le ciel et sur l'espace.
Voilà, en tout cas, comme vous collez à l'actualité, vous répondez à certaines questions autour de l'actu. Donc Michel, merci beaucoup. Rendez-vous le mois prochain.
Voilà, le 28 octobre, je crois,
au mois voilà, prochain. Toujours le mercredi, donc dans le cadre de notre journal. Allez, merci Michel, à très bientôt. Donc.